bonjour. Bonjour à tout le monde et merci d'avoir bravé ce mauvais temps pour venir jusqu'à nous. Merci beaucoup de votre présence. La conférence qu'on va vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans un programme de conférences du pôle d'animation régionale de la médiation qui a établi un programme de formation sur l'année qui va se répéter tous les mois dans cette salle, à cet endroit, de manière à réitérer si les choses ne sont pas bien passées ou si il y a des questions. Il y a toujours des questions un petit peu sur la médiation parce que tout le monde, enfin c'est un mot dont on se sert beaucoup et sous lequel on met tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de porter l'explication de ce que nous faisons, nous, au centre de médiation de Poitiers, en médiation essentiellement civile, donc entre les personnes privées. Bien cerner notre champ d'intervention, on va partir de un petit peu de tout ce qu'on met sous le mot médiation. Alors, je vous présente Didier Courret, qui est ancien bâtonnier, avocat au barreau de Poitiers et médiateur agréé, membre du centre de médiation de Poitiers, et moi-même, Anne-Marie Chenot-Singer, avocat et médiateur agréé, présidente du centre de médiation de Poitiers. Donc je vais laisser la parole. Alors, on va vous exposer rapidement les grands traits de la médiation et ensuite la médiation concrètement, comment ça se passe, parce que c'est quand même intéressant pour les personnes qui souhaitent, qui envisagent de régler leur litige de cette façon-là, de savoir concrètement comment ça se passe. Et puis ensuite, nous vous laisserons la parole pour des questions éventuelles. Je tiens à vous dire également que en fin de conférence, si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous voir pour éventuellement prendre un rendez-vous d'information personnalisée si vous avez un problème ou quelque chose de particulier à demander qui soit beaucoup moins général que ce qu'on va vous présenter. Nous sommes à votre disposition pour fixer avec vous un rendez-vous personnalisé. Voilà, je vais passer la parole à Didier qui va... Je suis pas très habitué au machin là. Voilà.
Merci. Je vous souhaite à mon tour à tous la bienvenue et je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir assister à cette conférence, c'est certainement un grand mot, mais à cette information sur la médiation. Anne-Marie Chenot-Singer, faut que tu coupes ton micro, oui, parce que ça, je pense que...
Ça marche comme...
Anne-Marie Chenot-Singer vient de vous dire quel était le cadre de notre intervention, c'est-à-dire les médiations civiles, les conflits entre particuliers. Mais pour bien comprendre ce qu'est la médiation, je crois qu'il faut partir d'un terme plus général, parce qu'effectivement, on voit des médiations dans un certain nombre de domaines, dans un petit peu tous les domaines. Vous avez, alors partons du général vers le particulier, on trouve des médiations, par exemple, au plan international. Il existe une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. On voit des exemples de médiation dans un certain nombre de conflits. Vous avez eu le cas de la Bosnie. Actuellement, à propos de la Côte d'Ivoire, on parle également de médiation. Je ne suis pas convaincu que actuellement ce soit avec une possibilité réelle d'aboutir. On a eu également, c'est pas tout à fait au plan international, mais on a eu également il y a quelques années un bel exemple de médiation en matière politique qui était la résolution de la crise en Nouvelle-Calédonie. On a donc à ce niveau-là un certain nombre d'exemples de médiation. Si on redescend d'un cran, on constate que au niveau européen et au niveau interne, nous avons un certain nombre d'exemples de médiation. Le médiateur de la République créé en 1973, qui a changé de nom en 2010 et qui s'appelle aujourd'hui le défenseur des droits. Vous avez un certain nombre d'autres types de médiation, la médiation pénale par exemple, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas du tout ce qui nous intéresse ici, puisque c'est une mesure qui est prise à l'initiative du procureur de la République lorsque une infraction a été commise et que le procureur estime que la meilleure réponse pénale n'est pas forcément le tribunal correctionnel et qu'une solution plus consensuelle est susceptible d'intervenir. Médiation sociale, médiation de quartier, on en entend également beaucoup parler dans les médias. Médiateur scolaire, c'est la même chose. Vous avez également ce qu'on appelle la médiation institutionnelle, qui émane soit de grandes entreprises, soit d'administrations. Et vous avez donc les exemples qui sont cités, les banques, les compagnies d'assurance, ou des administrations comme la Poste, ou des entreprises comme la SNCF. On a un petit peu de la médiation partout. Tout ça, c'est le cadre général. Si nous en venons maintenant à ce qui nous intéresse en particulier, c'est-à-dire la médiation civile, et nous incluons dans la médiation civile la médiation familiale, nous avons un cadre juridique qui est défini par une loi du 8 février 1995, c'est la médiation judiciaire. C'est-à-dire que c'est la médiation qui intervient à l'occasion d'un procès en cours. Ça peut être un conflit familial, ça peut être un conflit de voisinage, ça peut être un conflit entre un locataire et son propriétaire, ça peut être à peu près n'importe quoi. Le juge va, à l'occasion du déroulement de ce procès, s'apercevoir que, eh bien, il serait peut-être opportun, pour tout un tas de raisons, plutôt que de trancher un litige de manière un petit peu abrupte, de favoriser au contraire une solution qui soit une solution consensuelle. Et dans cette hypothèse, le juge va proposer aux parties, et je dis proposer car nous sommes dans un domaine où rien n'est imposé, le juge va proposer aux parties d'avoir recours à un médiateur. C'est ce qui se produit dans un certain nombre de cas, et notamment, je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les litiges en matière familiale, où là on comprend immédiatement l'intérêt que peut avoir une solution telle que la médiation. Lorsque deux époux divorcent, par exemple, s'il y a des enfants, eh bien, on va avoir la nécessité que des relations perdurent entre les époux divorcés qui vont avoir à se rencontrer pour les droits de visite ou pour le paiement de la pension alimentaire. On aura intérêt à ce que ces relations ne soient pas des relations d'adversaires, mais qu'il s'agisse au contraire de relations qui soient les meilleures possibles malgré le conflit qui a existé entre eux. Donc c'est un cadre tout à fait indiqué pour rechercher une solution consensuelle. Loi du 8 février 1995. Et puis derrière cette loi du 8 février 1995, se crée un certain nombre d'organismes de médiation. Et vous avez donc l'indication que les avocats, d'une manière générale, se sont intéressés à ce phénomène et que des barreaux ont créé des centres de médiation. Je te repasse la parole pour la suite.
Oui,
voilà, j'ai dessiné le cadre général. On va, peut-être que soit, c'est meilleur que ce ne soit pas toujours le même qui parle. Et que,
tout à fait.
Voilà, c'est peut-être plus vivant comme ça.
Voilà, donc...
Alors, je t'ai pris de court.
Oui, un peu. Donc, pourquoi la médiation ? Donc, Didier vient de vous expliquer effectivement que dans les litiges familiaux, c'est le cas le plus... disons, qui est le plus naturel, puisque dans ce cadre-là, il convient que les parents gardent de bonnes relations pour la suite et pour encadrer raisonnablement les enfants dans la suite des événements malgré leur séparation. Ça permet donc de gérer, on a dit, des grands litiges comme des petits. Je voudrais aussi préciser que on peut aussi gérer en médiation des parties de litige. Même quand un procès est engagé, on peut tout à fait, quand on a des procès un peu complexes, venir en médiation pour régler une partie du litige qui permet après de dénouer le reste. On peut faire des médiations partielles. On n'est pas sur des litiges un petit peu compliqués. Alors, la médiation familiale et les conflits de personnes, les conflits d'entreprise aussi, ou les conflits à l'intérieur de l'entreprise, où on peut avoir des problèmes de conflits de personnes, de harcèlement... harcèlement moral, etc. Enfin, on en parle de plus en plus et on fait dans les entreprises de plus en plus appel aux médiateurs plutôt que aux instances prud'homales pour gérer ce genre de problème dans la mesure où souvent il s'agit plus d'un problème relationnel que d'un problème de droit. On va voir que dans la médiation, on fait plus appel à l'équité qu'au droit. Donc, alors, j'aime beaucoup cette image parce que, je ne sais pas si vous avez bien vu ce que c'est, parce que, si on voit un petit peu, c'est un iceberg. Et ça représente exactement un conflit. C'est-à-dire que... avec notre expérience d'avocat, on s'est aperçu que quand nos clients viennent nous voir, ils nous disent, voilà, j'ai mon voisin, m'a fait ci, ça, ça, ça. Il vous raconte quelque chose. Et il vous dit, il veut pas que je fasse ça, il n'a pas droit, etc. Et puis, on s'aperçoit bien souvent que le problème, c'est pas tellement le chien d'à côté qui aboie. C'est pas tellement le portail qui sépare les deux propriétés, qui est toujours fermé à clé alors qu'il y a droit de passage, etc. C'est pas forcément, et souvent c'est pas le problème. Le problème, il est ailleurs. Et le principe de la médiation, c'est justement d'aller voir ce qu'il y a derrière ce qui met les gens en conflit, derrière ce qu'ils disent, de manière à ce qu'ils vous... dévoile la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire aller au fond du problème. Parce qu'on s'aperçoit souvent que le chien, c'est pas grave s'il aboie, mais il y a eu un autre problème avant, et après on part sur des non-dits qui restent après, qui se cristallisent. Donc, c'est pour cette raison qu'on a introduit cette image, parce qu'elle reflète bien la façon de gérer le conflit en médiation. Alors, on en revient à la définition telle que définie par le Code national de déontologie. Donc, c'est l'intervention dans un différend ou une négociation d'une tierce personne neutre et impartiale qui n'a pas de pouvoir décisionnel pour assister les parties en vue d'atteindre volontairement un accord mutuel acceptable par tous afin de résoudre le différend. On est donc sur du volontariat, on est aussi sur de la confiance et une volonté d'honnêteté dans les rapports aussi. Alors, le médiateur est sans pouvoir sur le litige en lui-même. En revanche, il dispose quand même d'un pouvoir, il est le gardien du cadre de la médiation. C'est-à-dire que c'est lui qui va encadrer cette démarche et encadrer cet espace de confidentialité et de confidentialité, je perds le mot, et surtout de parole et de confiance. Donc, il va utiliser tous les outils de communication et d'écoute pour parvenir à sa quête incessante, apaiser les tensions. Le premier travail du médiateur, c'est de faire en sorte que les personnes en conflit se reparlent déjà. C'est énorme, parce que des gens qui sont vraiment sur des choses très dures, ils ne se parlent plus, ils s'aboient après. Ou parfois même, on peut arriver à des violences physiques. Donc, la première chose à laquelle le médiateur se préoccupe, c'est de libérer la parole de l'un envers l'autre, de manière à ce que les deux personnes arrivent à se reparler calmement. Et il va, au cours de la médiation, toujours être dans ce but-là, et de pointer tout le temps le positif de ce qui est dit chez chacun, de manière à ce que tout le monde reprenne confiance aussi. Donc les valeurs de la médiation, alors la liberté, Didier en a parlé, puisque c'est une démarche volontaire, personne ne contraindra jamais personne à venir en médiation. L'autonomie, chacun est libre à la fois de venir et de mettre fin à la médiation si chaque partie a le droit également de mettre fin à la médiation. La responsabilité et la confidentialité sont des points aussi extrêmement importants, puisque la médiation, c'est la décision des parties, c'est la décision des personnes en présence. Le médiateur n'a pas le pouvoir de proposer des solutions. Il va essayer de les faire émerger de la part des personnes qui s'approprient à ce moment-là leurs propres décisions qu'ils prennent en commun. Et la confidentialité qui est complètement absolue entre les personnes en conflit et le médiateur. La séance de médiation, tout ce qui se dit en médiation est sous le sceau d'une confidentialité absolue, y compris ensuite si on est dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge, le médiateur ne rendra jamais compte de ce qui s'est passé en médiation au juge, sauf accord des parties. Mais autrement, il est tenu au secret le plus absolu. Donc le but, c'est la restauration.
Je souhaiterais seulement rajouter un mot autour de l'idée d'autonomie. Quand j'ai présenté le cadre tout à l'heure, j'ai parlé de médiation intervenant dans le cadre d'un procès, c'est-à-dire sous l'autorité du juge, qui s'aperçoit au cours du déroulement de ce procès qu'il est peut-être bon de rechercher une solution consensuelle. J'aurais dû dire à ce moment-là, mais je saisis l'occasion maintenant, qu'il existait également une autre façon de venir en médiation. On peut venir en médiation en dehors d'un procès. On peut y venir de façon volontaire. Et je crois que ça se raccroche à cette idée d'autonomie. À côté de la médiation judiciaire qui est définie par la loi, il existe également un certain nombre de cas où des gens qui sont en conflit, qui ont un différend entre eux, mais qui ne sont pas en procès, décident de manière volontaire qu'ils vont traiter ce conflit sans recourir à la justice. C'est tout à fait possible. Et c'est, non seulement c'est tout à fait possible, mais fort heureusement, ce sont des choses qui se produisent tout de même régulièrement.
De plus en plus.
Donc, il est également, encore une fois, reprenons l'exemple de la matière familiale, mais ça n'est qu'un exemple, ça vaut dans toutes les matières, deux parents séparés qui sont en conflit parce que l'organisation de la vie des enfants, qu'il s'agisse de leur résidence, qu'il s'agisse des grandes décisions à prendre quant à leur avenir, qu'il s'agisse du droit de visite, qu'il s'agisse de la pension alimentaire ou qu'il s'agisse encore d'autres choses, ces personnes peuvent parfaitement décider de manière volontaire de recourir à la médiation pour régler ce litige. Ça se terminera donc sans recourir à la justice, si la médiation aboutit, mais elle aboutit donc quand même dans bon nombre de cas, ça se terminera sans recourir à la justice par un protocole d'accord transactionnel. Je crois que c'est un point, j'aurais dû le dire en amont, mais je crois que c'est un point sur lequel il fallait insister.
Oui, tout à fait.
J'enchaîne, tu continues.
Les qualités du médiateur. Donc déjà, il faut savoir que les médiateurs sont une obligation de formation importante et sont ensuite agréés. Et les compétences et les qualités requises pour un médiateur, c'est bien évidemment les compétences qu'il acquiert par la formation, l'impartialité totale, bien sûr, une indépendance totale pour ce qui concerne notre pratique de la médiation, puisqu'on ne peut pas dire que dans le cadre des grandes administrations, banques ou assurances, bon, il existe des médiateurs, mais qui sont rémunérés par les institutions. Donc, ça manque un petit peu d'indépendance. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec certains d'entre eux, dont une personne que je connais bien, qui est médiateur de la MAIF à Niort, effectivement, c'est pas la même pratique. Disons que là, c'est une gestion des dossiers un petit peu conflictuels sur lesquels il tranche, lui. Donc, on n'est pas sur la même approche. Hein. Ça a le même nom, parce qu'on met sous médiation beaucoup de choses. Mais il faut avoir conscience que ça n'est absolument pas la même chose et que éventuellement, dans le cadre de litiges un petit peu plus... Qui lui serait difficile de régler, éventuellement, ils font appel à des médiateurs indépendants. Donc, la neutralité, bien sûr, et le secret professionnel absolu, bien sûr. Et effectivement, la base de la médiation, c'est la confiance, c'est le climat de confiance qui est créé par le médiateur, par ses qualités d'écoute et, comme je vous disais, d'empathie et de prise de recul par rapport au problème qui lui est évoqué, de manière à permettre aux personnes en conflit de se mettre à l'aise, de se détendre et de reprendre confiance en elles. Parce que dans un conflit, il y a toujours des reproches, il y a toujours de la culpabilité, il y a toujours... Bon, il faut déjà que les personnes se sentent à l'aise et soient dans un climat de confiance, ce qui permet déjà d'avancer pas mal.
Il faut insister particulièrement sur l'importance de la confidentialité. C'est certainement l'un des traits majeurs de la médiation. c'est simple à comprendre. Lorsque on est en litige et qu'on est amené à rechercher un accord, c'est bien souvent que chacun va faire un pas et va renoncer à une partie de ses prétentions initiales pour précisément se rapprocher de l'autre. Ça ne peut se faire que dans un climat de confiance totale. Si, en abandonnant une partie de ses prétentions initiales, on a la crainte que ça va se retourner contre vous si un jour on arrive devant un juge, ça ne marchera jamais. Ça ne peut marcher que si on peut dire tout ce qu'on a à dire. Si, par exemple, on discute d'une somme d'argent à payer, que l'un, au départ, voulait 100 et l'autre 500, peut-être qu'on tombera sur un chiffre intermédiaire. Mais celui qui ne voulait payer que 100, ben, il dira bien à un moment ou à un autre, j'irai jusqu'à 150. Et celui qui voulait 500, il dira, je suis prêt à rabattre mes prétentions à 400 ou à 300. Tout ça, il faut que ça puisse se dire dans le secret total. Si derrière, il y a la crainte que ça ressorte et que ça puisse vous être opposé, on n'arrivera jamais à un accord. Donc, la question de la confidentialité est une question essentielle. Et précisément, dans le cadre de la médiation, le médiateur s'interdit de donner connaissance à quiconque des informations qu'il aura recueillies pendant le cours de la médiation. Donc, ce point, oui. Qualité du médiateur, la confidentialité, ça me paraît l'une des clés de la réussite.
Tout à fait. Donc, maintenant, on va aborder la médiation en pratique. Donc, lors du premier rendez-vous, le médiateur pose le cadre de la médiation. Donc, le médiateur est neutre, indépendant, impartial, c'est ce qu'on a vu, et la procédure est volontaire. À la première séance de médiation, il est important d'expliquer un petit peu, bon, pas ce qu'on est en train de vous dire, mais comment ça va se passer, et positionner également le médiateur. En rappelant que, parce que toute personne sait ce qu'est une audience ou ce qu'est un juge, etc. Une médiation, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, devant l'inconnu, ben, on se demande un petit peu, un petit peu ce qui va se passer. Et le médiateur est là, donc, pour exposer, pour, comme on dit, poser le cadre de la médiation, c'est-à-dire le respect mutuel, le cadre de ne pas élever la voix, de s'exprimer chacun à son tour et de respecter la parole de l'autre et d'écouter la parole de l'autre. Parce que bien souvent, les gens en conflit ne s'écoutent plus. Ils font des monologues croisés. Et c'est ce processus-là qu'il faut enrayer de manière à ce que les personnes retrouvent un dialogue apaisé. Donc à partir du moment où les gens arrivent à se reparler de façon courtoise, on peut avancer. Et on peut, à ce moment-là, après, aller un petit peu plus loin que le conflit en lui-même et dépasser un petit peu le conflit, c'est-à-dire élargir le cadre du conflit, essayer de comprendre comment c'est arrivé et pourquoi. Et là, on s'aperçoit souvent que le conflit en question, il n'est pas là. Il n'est pas sur ce qu'on vous demande, sur ce que les parties demandent, mais il est ailleurs. Et à partir du moment où les personnes peuvent parler des choses en amont qu'elles ont gardées et qu'elles n'ont jamais pu exprimer de part et d'autre dont elles n'ont jamais pu discuter parce qu'à un moment ça s'est bloqué. Quand on arrive à débloquer cette partie-là, à ce moment-là, on en reparle et on met tout à plat. Le processus en pratique, c'est ça. Alors, en pratique également, dans le cadre de la mesure des entretiens de médiation, les parties peuvent être représentées en entreprise par un représentant de la société, peuvent être assistées d'un avocat. Et le processus, doit se dérouler dans les meilleurs délais. Effectivement, il faut savoir que dans un cadre judiciaire, la médiation doit se dérouler en 3 mois, renouvelable une fois. Bien souvent, les mesures de médiation se règlent plus rapidement que ça, à part des médiations un petit peu plus complexes. Les parties peuvent se retirer. Alors ça, c'est un résumé. Alors, il y a la possibilité également, avec l'accord de toutes les parties, de faire des entretiens séparés. La raison du conflit en fait ressentir le besoin, on peut parfois, parce qu'il est parfois difficile de parler de certaines choses en face de la personne avec laquelle on est en conflit, et les parties peuvent demander à être entendues seules par le médiateur, peut-être pour permettre de lui dire des choses qui sont difficiles à verbaliser, et que le médiateur va lui permettre de peut-être verbaliser différemment ou lui apporter son aide pour que ça puisse être transmis à l'autre partie. Alors là, on revient sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Donc,
j'ai dit trop tôt.
Les deux façons d'accéder à la médiation, donc la médiation judiciaire qui est demandée par les avocats au juge et qui statue sur la demande, mais elle doit être demandée. Et la médiation conventionnelle qui est celle que les parties choisissent pour régler leurs conflits, parce que beaucoup de gens maintenant s'aperçoivent que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins onéreux aussi. Et puis, je crois que la qualité essentielle de la médiation, c'est que ça permet également aux personnes en conflit, quel que soit en matière familiale, c'est primordial, mais dans les autres matières, même en entreprise, ça permet ensuite de garder un lien avec l'autre partie avec laquelle on était en conflit. C'est-à-dire que la médiation a cette vocation également de restaurer les liens relationnels entre les parties. C'est-à-dire que à partir du moment où ils vont comprendre la raison pour laquelle le conflit entre eux s'est cristallisé et qu'ils vont s'être expliqués là-dessus alors qu'ils n'y arrivaient pas tous les deux, lorsque cette explication a été facilitée et qu'elle a été faite et que tout a été mis à plat, il n'y a plus de source de conflit. Et du coup, les relations sont apaisées pour l'avenir. Et on s'aperçoit souvent, enfin moi il m'est arrivé, notamment en matière familiale, de rencontrer 2 mois, 3 mois, 4 mois après, des personnes dans la rue qui me disent écoutez, c'est formidable, on ne se dispute plus du tout, et puis maintenant il n'y a plus aucun problème, ça nous a changé la vie parce que... on a respecté les engagements, exactement les engagements qu'on a pris, puis on s'est aperçu qu'en fait, on se disputait pour rien, quoi. Mais que c'était un mode de fonctionnement. Parfois, c'est aussi un mode de fonctionnement de relationnel, d'être dans le conflit tout le temps. Et on s'aperçoit que quand on fonctionne différemment, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à vivre. Qu'est-ce qu'on a appris ? Alors, en début de médiation, un contrat de médiation est signé qui rappelle un certain nombre d'obligations, les obligations du médiateur, mais aussi les obligations des parties en médiation. Donc la confidentialité, ça c'est la base aussi bien pour le médiateur que pour les personnes en présence, la loyauté, et la loyauté aussi dans le discours. C'est-à-dire qu'il est inutile d'aller en médiation pour raconter une histoire qui n'a rien à voir. Enfin bon, ça sert à rien, parce que de toute façon, le médiateur va le voir tout de suite. Et puis que, bon, donc la loyauté dans l'expression de ce qu'on rapporte. Et puis, bon, toutes les... Le contrat de médiation, donc, dispose, rappelle toutes ces règles et peut éventuellement fixer à l'avance les rendez-vous de médiation où ils peuvent être fixés en fonction des calendriers, des agendas de chacun et en fonction des disponibilités. Il fixe, cette convention fixe également le coût de la médiation sur laquelle le médiateur et les personnes se mettent d'accord. Chaque organisme de médiation fonctionne avec des coûts horaires qui sont différents selon les associations, puisque certaines associations sont subventionnées par l'État, d'autres pas. Mais ces informations sont données de toute façon par les associations sur simple contact à voir après en fonction de l'association qui est saisie.
Ça c'est le point négatif. Il faut dire les choses comme elles sont. La médiation faite par des professionnels, eh bien, ces professionnels demandent une rémunération, ce qui paraît tout de même normal, mais pour les personnes qui ont recours à la médiation, ça veut dire que ça a un coût. La justice, c'est gratuit. Bon, si vous allez devant un juge, le juge, il vous demandera pas de rémunération. Le médiateur va vous demander des sous. Bon. Donc, c'est véritablement deux manières différentes d'aborder les choses. D'un côté, alors on va pas vous dire aujourd'hui, c'est pas notre objet, que la médiation c'est mieux que le recours à la justice. Il y a des cas où il faut avoir recours à la justice, il y a des cas où c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais le juge, il va répondre d'une manière autoritaire, c'est son rôle. Il va répondre d'une manière autoritaire à une demande qui lui est faite, qui donnera probablement satisfaction à l'un et pas à l'autre, qui aura peut-être, dans les cas qu'on a évoqués tout à l'heure, dans les cas où les gens doivent continuer plus ou moins à vivre ensemble, qui donnera peut-être pas tout à fait satisfaction. La médiation, c'est une autre manière d'aborder les choses qui peut déboucher sur d'autres solutions. Mais effectivement, encore une fois, il faut dire les choses. La médiation est une démarche qui a un coût. Ça n'est pas... Bon, faut pas faire d'angélisme, il faut le dire.
Et l'issue de la médiation, donc, se termine par un protocole d'accord. À partir du moment où les parties ont trouvé un terrain d'entente, elles rédigent, ou éventuellement avec l'aide de leur avocat, un protocole d'accord qui peut être... alors, les solutions peuvent être parfois totalement surprenantes. C'est-à-dire qu'un juge va trancher en droit. Il a les outils de droit, les règles de droit pour trancher sur une demande qui lui est faite par les personnes en litige. À partir du moment où les personnes font la démarche de médiation, il est possible à ce moment-là, puisque ce sont elles qui vont trouver leur solution, de trouver des solutions tout à fait originales et d'arrêter le conflit avec des solutions, par exemple, j'ai vu des protocoles d'accord se signer sur des engagements moraux, uniquement. Alors que c'était des parents qui avaient une petite fille et qui n'arrêtaient pas de se chamailler pour la garde de la petite fille, enfin bon quoi. Le mode de garde, ça allait à peu près, c'était à peu près respecté, mais ils aimaient tous les deux énormément cette petite fille et chaque fois lui offraient des tas de cadeaux qui faisaient double emploi, et c'était source de conflits sans arrêt et source de conflits, et ils ne pouvaient pas, ce papa et cette maman, s'adresser la parole sans s'injurier. Et ils avaient parfaitement conscience que la petite en souffrait et que si elle prenait le cartable de la maman pour aller à l'école, le papa lui disait « Mais où est mon cartable? Tu t'en sers pas ?» Enfin, cette petite était tiraillée entre le trop-plein d'amour, finalement, de ses deux parents qui voulaient tellement faire, c'était tellement faire pour elle que finalement, ça en devenait totalement encombrant pour cette petite. Et comme c'était des gens intelligents, ils se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, elle n'était pas bien, cette petite fille. Et ce sont des gens qui sont venus volontairement en médiation et qui nous ont exposé leurs problèmes en nous disant, on n'y arrive pas, quoi. Et puis à chaque fois, bon, si j'ai une demi-heure de retard, bah, il est parti. Et si, enfin bon, tout était prétexte à faire du conflit. Et on s'est aperçu qu'en fait, en leur faisant parler un petit peu de leur relation, de leur rencontre, de la façon dont ils fonctionnaient avant de se séparer, mais qu'ils avaient toujours fonctionné comme ça, même quand ils étaient ensemble. Donc le problème, il venait pas de la séparation, il venait en fait que c'était un mode de... un mode relationnel, ils ne pouvaient communiquer que sur le conflit. La solution, alors, était un petit peu difficile à trouver, les engagements, bon. Donc, du coup, on a travaillé là-dessus et on a fait un protocole d'accord sur lequel les engagements moraux étaient basiques, enfantins, mais qui était nécessaire à ces deux personnes-là. C'est-à-dire que l'engagement, vous allez sûrement estimer que c'est un peu ridicule, mais c'était de veiller à se dire bonjour quand on téléphonait avant toute chose, et tout un tas de choses comme ça, toutes bêtes. Alors, on a répertorié un petit peu les simples signes de politesse entre deux personnes, quoi. Et on a listé tout ça ensemble, ce que les deux semblaient, ce qu'était la politesse pour l'un et pour l'autre. On a fait les listes, et on a dit, ben voilà, et ben, c'est pas parce que vous êtes vous le papa de la petite et vous la maman de la petite que vous ne devez pas respecter ces règles élémentaires de politesse entre vous. Donc déjà, si vous faites ça, ça va sûrement aller mieux. Donc on a listé, puis on se disait, enfin moi je me disais, bon, peut-être, enfin bon, c'est peut-être un peu bon. Et puis, j'ai dit, bon, on va essayer. de fonctionner comme ça. Alors faites très attention, vous téléphonez à l'autre avant d'arriver chez lui, parce que on fait ça tout le temps. C'est la plus élémentaire des politesses. On dit bonjour, on demande des nouvelles. Voilà, tout simplement. Et j'avais laissé un délai d'un mois entre cette dernière réunion et celle qu'on avait prévue ensuite. Et puis on a fait le bilan après. Et ils m'ont dit, ben, ça va beaucoup mieux. Et effectivement, on fait très attention. Et du coup, ça va devenir une habitude. Donc, on a signé un protocole d'accord sur ces bases-là. Et du coup, ils avaient un petit peu enrichi la liste parce qu'ils trouvaient que... Voilà. Alors donc, vous voyez, les litiges, c'est pas forcément... et ça, bon, aucun juge aurait pu le trancher, je veux dire. C'est pas possible. Je dirais que dans la médiation, on est plus sur, de l'humain. Et on peut trouver des solutions complètement originales à un conflit. Et puis depuis la signature de ce protocole d'accord qui a été complètement respecté, puis après il a été oublié, le protocole d'accord, l'habitude a été prise et il n'y a plus aucun problème. Voilà, bon, c'est un exemple assez particulier, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut arriver à faire quand même, alors que ces gens-là, ils se pourrissaient la vie, hein. Il se pourrissait la vie complètement. Et la jeune femme était en dépression nerveuse. Enfin, c'était plus possible, quoi. Donc, bon, on arrive parfois à ce genre de choses. Voilà. Tu peux peut-être continuer.
Conclusion.
Conclusion.
Alors, conclusion. Là, je pense qu'on peut passer sur le slide suivant, parce que c'est la suite de ce que tu as indiqué. On arrive au dernier. Les atouts de la médiation. Ah, ça y est, on a perdu le...
J'ai tout perdu.
Ça fait rien. Alors.
Je suis stressé.
Voilà. Encore un. Voilà. Alors, finalement, on va revenir sur quelques maîtres mots qu'on a développés au cours de ce propos. Efficacité de la médiation. C'est un petit peu l'exemple qui vient de vous être donné. On aboutit à des solutions qui ne sont pas forcément celles qui résultent... qui serait la solution du conflit initial, mais qui vont dépasser le conflit initial pour traiter en profondeur les origines du conflit et par conséquent à aboutir à une solution qui soit plus efficace. Liberté, alors là je crois qu'il faut insister sur cette idée de liberté. La médiation, on vous l'a dit, c'est une démarche volontaire. C'est une démarche qui est volontaire tout au long du processus. Ça a été indiqué. Ça veut dire que celui qui ne souhaite plus, à un moment ou à un autre, traiter le conflit de cette façon, peut se retirer à tout moment. La démarche, encore une fois, doit être volontaire de bout en bout et non pas subie. Et c'est parce qu'elle est volontaire, parce que les gens viennent spontanément et avec la volonté d'aboutir, que, précisément, on arrive à aboutir. Rapidité. Alors, rapidité, donc, si on est en médiation judiciaire, ça a été dit, le délai est de 3 mois. Si on est en médiation volontaire ou conventionnelle, on n'est pas enfermé dans un délai particulier, mais on aboutit généralement... des solutions dans des délais qui sont extrêmement raisonnables. Alors, c'est à comparer avec la durée d'un procès. Il y a des affaires simples qui, en justice, peuvent se régler en quelques mois. Mais nous avons tous des exemples où les affaires durent beaucoup plus longtemps que cela. c'est malheureusement quelquefois en termes d'années, de plusieurs années, qu'il faut raisonner. La médiation, ça n'est jamais aussi long que cela. On sait, au bout de très peu de temps, si on aboutit ou si on n'aboutit pas. Si on n'aboutit pas, on se tournera vers la justice et on aura finalement perdu peu de temps. Mais si on aboutit, on aboutira au bout d'un délai qui est un délai bref. Durabilité, ça c'est aussi quelque chose sur laquelle nous avons insisté tout au long. La médiation, l'indication particulière de la médiation, c'est le cas où les gens doivent continuer à vivre ensemble. C'est en matière familiale le cas des parents qui devront avoir des relations ensemble tant que leurs enfants auront besoin d'eux. Ça peut être le cas dans d'autres types de conflits, conflits du travail lorsque le contrat de travail n'est pas rompu et que, au contraire, il doit se continuer. Un conflit entre un propriétaire et un locataire, un conflit au sein d'une entreprise, un conflit entre une entreprise et un fournisseur. Ce sont tout un tas d'hypothèses où les gens vont continuer à avoir des relations ensemble et où il ne suffit pas de dire « c'est lui qui a tort, c'est lui qui a raison ». Il faut au contraire aller plus loin et aménager le futur. Maîtrise. Maîtrise, c'est un petit peu la même idée que la liberté. Les gens sont au cœur de leurs problèmes et le résolvent par eux-mêmes. Ce n'est pas le médiateur qui impose une solution. Ça a été dit au début, le médiateur est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Il n'a que le pouvoir de faire émerger la solution qui est celle qui des parties en présence. Et puis enfin le coût. Alors, je disais tout à l'heure, la médiation a un coût, alors que la justice est gratuite. Mettons, par contre, tous les paramètres sur la table. La justice est gratuite. Dans les affaires où vous n'avez pas, où les gens peuvent se présenter seuls devant le juge, mais il y a aussi les affaires où les gens ont recours à un avocat, et il y a également le facteur de la durée. Et plus ça dure, plus les interventions sont nombreuses, et plus ça coûte. Il y a aussi le coût des expertises en justice. Bon, tout ça, c'est des choses qui doivent être mises bout à bout. Dans le cadre de la médiation, ça a un coût, mais le coût, il est en relation avec le fait que ça dure peu de temps. On aura deux ou trois séances, ou quatre ou cinq séances.
Maximum.
Maximum, ça ne va jamais au-delà. Bon, sur un délai bref, ce qui fait que ce coût sera finalement un coût, disons, raisonnable. Donc voilà le bilan. Voilà ce que nous avions à vous dire sur la question. Et puis maintenant, nous sommes attentifs aux questions que vous allez probablement nous poser. La parole est à vous.
Quels sont les principaux obstacles à la mise en place de la médiation ?
Quels sont les principaux obstacles à la mise en place d'une médiation ? Le principal obstacle...
Pourquoi on en voit assez ?
Le principal obstacle, c'est que l'une des deux personnes en litige, ou quelquefois les deux personnes, veulent absolument en découdre. S'ils refusent l'idée même d'un rapprochement, il est bien évident qu'on ne va jamais pouvoir mettre en place une médiation. Et bon, il faut dire malheureusement que c'est souvent le cas. On est en présence de gens qui sont braqués, qui ont une position qui est de vouloir gagner ou de vouloir, ce qui revient, c'est la même chose, mais dit autrement, de vouloir tout faire pour mettre l'autre à bas. Et c'est, à mon avis, cette c'est ce type de comportement qui est le véritable obstacle. Alors que si on a des gens qui, au contraire, sont à la recherche d'une solution raisonnable et négociée, eh bien on arrivera à mettre en place la médiation. Mais je crois que votre question est la bonne question. La difficulté, c'est de mettre en place la médiation. Une fois qu'on l'a mise en place, on a fait la moitié du travail.
Quand vous avez dit tout à l'heure que la médiation judiciaire pouvait être demandée par les parties, elle peut être aussi proposée par le juge avec l'accord des parties. Et on devrait, à mon sens, plus mettre en exergue l'autorité de la personne, que ce soit le conseil, l'avocat qui conseille la médiation, ou l'autorité du juge qui dit « Écoutez, vous avez un problème qui rentre typiquement dans le cadre d'une médiation. » Et j'ai l'expérience d'une médiation dans une affaire commerciale, d'une médiation qui a réussi, parce que précisément, on était sorti du cadre que vous avez tracé. Premièrement, la médiation a été décidée par le juge, en ce sens qu'il n'a pas laissé la liberté aux parties de refuser. C'était ça ou la catastrophe. Hein. Vous allez y aller. Je rassure, ce n'était pas dans cette juridiction, c'était bien loin d'ici. Et je me suis renseigné, c'était au niveau de la cour, je me suis renseigné auprès des avoués. Je dis, oui, vaut mieux y aller en médiation. Alors, voilà. Ce n'était pas la liberté. Deuxième facteur, nous sommes tombés sur un médiateur qui avait un réel pouvoir, en ce sens qu'il avait une compétence qui n'était pas liée seulement à la technique de la médiation. Il avait, au fond, une connaissance des problèmes techniques, de telle sorte que quand les parties ont vu à qui ils avaient affaire, il y a eu comme tout de suite un respect par rapport à la connaissance que ce tiers avait. Troisième chose,
mais qui était un expert.
Du coup,
qui avait une expertise de la matière.
Qui avait une expertise de la matière. Mais qui n'était pas là pour chercher les causes du truc ou du machin technique. C'était pas technique, c'était savoir comment on faisait ou on ne refaisait pas un contrat. L'affaire n'était pas donc, sur la chose, mais elle était sur le contrat, sur les obligations des uns et des autres. Troisième facteur, l'expert est. Le médiateur n'a pas demandé aux parties comment on allait organiser la chose, il a imposé la chose et d'entrée, alors moi en tant qu'avocat, habitué au contradictoire, ça m'a beaucoup choqué, mais j'ai laissé faire, d'entrée, il a dit j'entendrai les parties séparément. Et c'est vrai que ça, il n'a pas. On parle beaucoup plus librement séparément et. Surtout, le médiateur peut faire parler beaucoup plus séparément. Le législateur le sait d'ailleurs, puisque dans les conciliations de divorce, le juge entend préalablement séparément les parties et le juge, là, il a eu la formation après, mais ce n'est pas le strict respect du contradictoire. Donc, il avait les tenants et les aboutissants, chacun ayant dit les choses. Quatrième facteur, avec beaucoup de psychologie négative, le médiateur a commencé par descendre, mais vraiment l'un après l'autre, les thèses juridiques qu'on avait échafaudées, de telle sorte que les clients se sont retrouvés sans état. Il se dit où je vais. Enfin, bon, il a détruit leur petite certitude ou croyance dans une résolution juridique du conflit. Et après, il a, alors, cinquième erreur qu'il a commise par rapport au cadre que vous avez tracé, il a dit, moi, j'ai une solution. Et sa solution a été de dire, vous vous êtes trompé dans la confection de votre contrat, la preuve c'est que ni l'un ni l'autre n'en avait la satisfaction. Et ce que je vous propose, c'est de vous remettre, d'oublier ce que vous avez fait, et de vous remettre dans la situation antérieure, en disant comment maintenant, avec, enfin oublier, mais en ayant acquis la certitude que ce qu'ils avaient fait n'était pas bon. Donc, comment on peut faire maintenant pour
faire bien
et que vous en ayez la satisfaction. Alors, avec des gens qui n'avaient plus de certitude de rien, pas de certitude du jugement juridique du juge, parce que le juge aurait dit « débrouillez-vous avant », bon, ils se sont dit « oui », et on a eu affaire à ce moment-là à un médiateur qui a proposé des solutions, parce qu'il savait de quoi il parlait.
Il a guidé les parties.
Je crois que de cette expérience, moi, j'ai retenu que il faut que le médiateur ait une autorité morale au-delà de la technicité de la médiation. Il faut que si, parce que il y a une, vous dites la médiation a des avantages, pardon, mais la personne qui est en conflit, dans le fond, elle choisit. Elle se dit, est-ce que j'ai intérêt à mettre en médiation? Est-ce que j'ai intérêt à aller devant le juge? C'est une voie dite alternative. Bon. Donc, il y a des cas où ça peut marcher. Et dans les éléments de choix, je crois que ce qu'il faut qu'on mette en exergue, c'est pas tellement les aspects positifs, mais essayer de faire en sorte que les obstacles à la médiation soient écartés. Et que, quand on a affaire à quelqu'un de buté, il faut pouvoir lui expliquer et lui faire comprendre. Alors, l'obstacle aussi, c'est que moi je suis bien d'accord pour dire que la médiation judiciaire c'est 3 mois plus 3 mois, ça va plus vite. Moi j'étais très intéressé par votre présentation et par l'image de
l'iceberg.
De l'iceberg. Mais si vous voulez faire émerger l'inconscient, ça prend. Non, mais venez, le problème caché, on n'est pas loin de l'inconscient.
Non. On n'est pas du tout sur l'inconscient.
Et après, si vous mettez en place des solutions qui sont plus sur le domaine comportementaliste, il y a une adéquation entre l'analyse et puis.
Oui, non, mais là, c'est l'exemple que j'ai donné, tout à fait marginal.
Je crois qu'il faut du temps pour faire comprendre aux gens quel est leur intérêt. Alors, c'est peut-être qu'il faut trouver le bon moment, la bonne fenêtre, des gens un peu épuisés par quelques mois.
Mais je crois que dans notre profession, nous, d'avocats, et dans le cadre de notre devoir de conseil, il y a vraiment, et on en voit, des dossiers qui n'ont rien à faire devant les tribunaux et qui, aurait avantageusement, qui pourrait être réglé avantageusement en médiation. Après, à nous, conseil, de le proposer et de d'amener nos clients vers cette voie. Alors maintenant, tout n'a pas vocation à être réglé en médiation, loin de là. Mais dans certains cas où effectivement il faut une continuité après le règlement du conflit de relation, une continuité relationnelle et une restauration du lien relationnel, comme en matière familiale où là c'est indispensable pour que, dans l'intérêt des enfants essentiellement, hein, parce que c'est quand même le plus important, je crois que on a, dans le cadre de notre devoir de conseil, on peut amener les gens et les convaincre, parce que là, on a vraiment des résultats.
Je pense que dans votre exemple, vous êtes très content.
Je voudrais...
Très content,
oui. Oui, tout à fait, oui.
Certainement plus content.
Alors, il y a des pratiques différentes selon les médiateurs. Il y a des médiateurs extrêmement autoritaires. On en connaît.
C'est exactement...
Même autoritaire, il n'aurait pas pu s'approprier la solution. Il n'a fait que la proposer.
Oui, voilà.
C'est précisément.
Ils n'avaient pas été d'accord pour signer
pour refaire leur contrat.
Ça n'aurait pas abouti.
Tout voilà. À fait.
C'est précisément le point qui est intéressant dans l'exemple que vous avez cité. C'est que ce médiateur autoritaire, qui effectivement s'écarte du schéma traditionnel. Comme le juge s'est écarté du schéma traditionnel, il ne peut pas imposer la médiation, mais il leur a dit quand même, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. Mais ce médiateur autoritaire, il dit une chose qui me paraît capitale, il dit, votre contrat ne fonctionne pas, il faut le mettre à bas, et il faut bâtir un nouveau contrat. Qu'aurait fait le juge? Le juge, il ne peut pas dire ça. Le juge, il a un contrat qui définit les obligations de chacun, et il va dire si l'un et l'autre ont respecté leurs obligations. Il va dire, par exemple, que un tel n'a pas respecté son obligation, que ça doit être sanctionné par la résiliation du contrat, par des dommages-intérêts, par je ne sais quoi, mais il va appliquer le contrat. Or, dans l'exemple que vous citez, le médiateur dit aux deux parties qui sont en présence, votre contrat, il faut le déchirer, et il faut en conclure à nouveau. Ça, c'est l'atout de la médiation.
Oui, parce que c'est une solution originale sur laquelle que le juge n'aurait pas pu du tout. Et c'est ça l'atout aussi, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, il nous reste à vous remercier d'être venu et de nous avoir consacré un petit peu de temps. Bonsoir.